Un long dimanche de fiançailles de Sébastien Japrisot. On commence l'histoire en suivant cinq poilus en 1917. On comprend tout de suite qu'ils sont prisonniers, qu'ils ont les mains liées dans le dos, on les fait marcher dans les tranchées. Ils sont tous condamnés pour la même raison, l'automutilation. Déjà, le concept frappe, hein. L'automutilation, donc, c'est l'acte qui consiste à se mutiler pour échapper à la guerre, en espérant que la mutilation passe pour une blessure de guerre. Tous se sont tiré une balle dans la main. Dans la main gauche ou droite, je sais plus. Certains trichent. Des droitiers, des gauchers font semblant d'être droitiers et se tirent une balle dans la main droite. Enfin, à ce niveau-là, ça commence déjà par l'horreur. Donc on a des personnages très différents. J'ai oublié un peu, mais enfin, je saurais pas tous les citer, mais en gros, on a l'un d'entre eux qui ne parle jamais de lui, on ne connaît pas son nom. Un autre, c'est un boulanger. Un autre, c'est un syndicaliste. Là, je confonds des choses. En fait, le héros, Marek, qui vient des Landes, de Cap-Breton plus précisément, est assez jeune, je crois autour de 18 ans, et lui, il s'est automutilé, et il doit passer en cours martial avec d'autres jeunes hommes qui ne sont pas, qui sont parfois là pour d'autres raisons. L'un d'eux, c'est justement, je crois, un syndicaliste, qui c'est un soudeur, qui croit en un monde meilleur. Bon. On est en 1917. Cela dit, je suis pas certain qu'ils connaissent la révolution russe à ce moment-là. Enfin, en tout cas, il est condamné suite à cette cour martiale, le héros, mais il n'est pas exécuté sur le champ. Il doit d'abord être emmené plus loin. Dans une autre tranchée, à des kilomètres de là, pour subir son sort. Lui ne sait pas ce que c'est que ce sort. Et nous non plus au début. Là, un caporal, je crois, avec son escouade, son groupe, les encadre et les emmène jusque-là. Il est confié à un autre gradé avec qui il discute, qui a pour mission, alors lui, de les faire sortir de la tranchée pour qu'ils rentrent dans le bled. Le bled, c'est la zone tampon entre deux tranchées. C'est le no man's land ou la terre de personne, comme disent les Français, a priori à l'époque. Donc c'est un châtiment assez atroce parce qu'ils sont envoyés là, sans armes, les mains liées. Bon, avec des armes ou pas, ça changerait pas forcément grand-chose, mais en tout cas, les mains liées dans le dos, envoyés dans une tranchée pour mourir. Envoyés hors de la tranchée pour mourir face à l'ennemi. Cette sanction est effectuée. Le caporal qui les a amenés jusque-là vérifie qu'ils sortent de la tranchée. Il le fait pas par sadisme, mais par acquis de conscience, parce que c'est son boulot, enfin, vous voyez le genre. Toujours la même chose. L'autre, c'est pareil, en pire, c'est-à-dire que il est écœuré de devoir faire ça, mais il le fait. Enfin, voilà. Mais il espère, on apprend plus tard, qu'il pourra les récupérer le lendemain matin. On l'apprend parce que, un certain temps après, après la guerre, je pense, Mathilde, la fiancée du héros, qui est à Cap-Breton, eh bien Mathilde reçoit une lettre de ce caporal qui se retrouve dans un hospice, qui a 37 ans, je crois, mais qui a l'air d'être un vieillard. Et elle reçoit une lettre de cet homme et qui lui explique que il sait des choses sur son fiancé. Donc elle y va et il lui raconte toute l'histoire. Donc elle est horrifiée, elle apprend qu'il s'est automutilé, il avait l'air hagard, enfin bon, parce qu'elle voit une photo. Et donc finalement elle apprend que qu'il n'est pas forcément mort, mais que le gradé qu'il a laissé dans la tranchée a écrit une lettre au caporal qui l'a amené pour lui dire qu'il espérait bien pouvoir le récupérer. Enfin, voilà. Ensuite, elle reçoit aussi une lettre de son fiancé, même les lettres des autres condamnés qui ont écrit à quelqu'un de cher. Ça, c'est poignant, ça. Elle a une photo où elle voit que son fiancé avec les autres, l'air hagard, complètement fou. Je comprends pas ce qui va lui arriver, en fait. Et on a cette impression à la lecture de la lettre qu'il écrit à Mathilde, une lettre enflammée, où il dit qu'il va se marier avec elle, qu'il est heureux, que ça va être en plus que 1 ou 2 jours, et ils vont être mariés. Enfin, a priori, il est dans un monde complètement onirique, là, et très loin de la réalité. Donc il est complètement enflammé. Il l'aime, il sait qu'elle l'aime. Bon. Voilà, donc c'est assez poignant. Alors je vais parler de la fin de la fin du livre dont j'ai déjà oublié le nom d'ailleurs, dans Un long dimanche de fiançailles. Alors j'ai terminé il y a déjà quelques semaines, ouais, presque un mois maintenant. Donc je vais pas m'apesantir, mais voilà, en tout cas ne pas écouter cette partie si on veut garder le suspense. Alors que se passe-t-il? Alors je sais plus très bien où je m'étais arrêté la dernière fois, mais peu importe. Bon, les recherches continuent. Pour Mathilde, pour retrouver son bien-aimé, dont j'ai oublié le nom. Bon, l'enquête est toujours un peu complexe, un peu floue, hein. C'est pas toujours. On comprend petit à petit, donc elle fait pression sur un enquêteur, sur un avocat qui connaît la famille, enfin bon, enfin fait pression, pas toujours fait pression, mais en tout cas elle continue à stimuler ses connaissances, et on apprend finalement que. Enfin, petit à petit, on découvre que les autres condamnés sont morts. Bon. Pour finir, un beau matin, elle reçoit une lettre de son enquêteur favori, un homme assez attachant, qui lui dit que ça y est, elle l'a retrouvé. Mais il est amnésique. Bon. On aurait pu s'en douter, hein. C'est-à-dire, soit il était mort, soit il était amnésique. Tout d'après ce qu'on savait dans les tranchées où il devenait un peu maboule. Donc amnésique, certes, mais adopté par une femme qui a perdu son enfant. Alors c'était l'un des autres condamnés. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On lui a annoncé qu'on avait retrouvé son fils, mais en fait on l'a retrouvé parce que donc quelqu'un d'autre l'a sauvé. Il y a une belle rencontre là. Petite digression, avant la fin du livre, elle retrouve un homme dont on ne connaissait pas le nom, justement. Il s'appelait Le Gars, donc ce gars. Enfin. Donc il est retrouvé. Elle va le voir et lui, il lui explique en fait qu'il a sauvé son fiancé. et qu'il avait failli aller tuer Mathilde après la guerre, pour protéger, parce que c'était un déserteur. Et donc, il savait qu'il risquait gros, et donc, pour éviter le pire pour lui et sa famille, il avait été dans les Landes, il avait retrouvé Mathilde, puis il avait finalement reculé devant l'horreur de ce qu'il s'apprêtait à faire. Donc, il ne l'a pas tué. Elle l'a retrouvé, ils ont eu une belle rencontre, il lui explique. Donc, elle a de bons espoirs maintenant pour retrouver son fiancé. Et c'est là qu'elle reçoit le courrier de l'enquêteur. Donc, je disais qu'il était vivant et que, enfin, la personne qui l'a sauvé, ce gars-là, il l'avait sauvé et il avait mis dans ses poches les papiers d'un autre. Un autre qui est mort dans les tranchées. Je ne sais plus si c'est celui. C'est celui dont on parlait, c'est-à-dire l'un des autres condamnés, je ne suis pas sûr, bon, peu importe. En tout cas, quand on a appelé la mère de ce gars-là, suite au papier qu'on a retrouvé, ben elle est arrivée, puis elle a vu que c'était pas son fils. Bon, on l'a laissé devant le type, et puis les gens l'ont laissé toute seule. Donc elle s'est dit, mais c'est pas lui, mais bon, elle a eu le temps de réfléchir à côté de lui. Et puis elle a fini par se dire, je crois qu'il s'est réveillé à ce moment-là. Il a dû lui demander qui êtes-vous, et puis voilà. Donc, cette femme, pour retrouver goût à la vie finalement, elle l'a adopté. Elle a dit que c'était son fils, donc il a changé d'identité. Elle a donc dû quitter toute sa famille et sa région, je crois qu'elle était aussi du sud-ouest, pour partir parce qu'elle aurait pu être connue, enfin son fils, bref, elle risquait gros. Donc elle est partie. Elle a emménagé avec son fils. Voilà. Donc il prévient Mathilde, l'enquêteur, que bon, il y a cette situation et qu'il ne faut pas arracher, ce serait un crime d'arracher son fiancé à cette femme parce que c'est toute sa vie maintenant. Mathilde comprend, mais est déterminée, une part sur le champ. Et puis, elle arrive dans la petite ville, je sais plus. Elle dit à son père de réserver une chambre d'hôtel. Parce que ce soir, il dormira avec lui. C'est déjà assez intéressant, on y voit sa détermination. Et puis, et puis elle rentre dans la maison. Bon, il y a des palabres avec la femme, mais on ne rentre pas dans les détails. Hein. Et on apprend que le fiancé est dans le jardin en train de peindre, et que c'est un très bon peintre, à peu près, a priori, il peint les horreurs de la guerre, quoi, des explosions, il extériorise un minimum de l'enfer qu'il a vécu. Donc elle arrive derrière lui, en fauteuil. Mais il y a des graviers, des gravillons par terre, donc elle peut pas trop facilement avancer jusqu'à lui. Alors lui se retourne, et puis on lui a juste appris que c'était une femme qu'il avait aimée. Il se retourne, et puis la première phrase qu'il lui dit, c'est « Tu ne peux pas marcher? » Alors, en fait, c'est la première phrase qu'il lui a dit, qu'il a dite. Quand il était enfant, quand il l'a vu pour la première fois. Elle répond que non, ou elle fait non de la tête, et lui retourne vers son tableau, un peu presque indifférent, disons. C'est assez dur pour Mathilde. Là, elle décide, elle avance quand même avec son fauteuil, et elle avance jusqu'à lui. Et puis, je sais plus ce qui se passe exactement, elle le regarde, elle est à côté de lui. Et là, elle se dit que, une phrase qu'il a répétée plusieurs fois dans le livre, que le temps prend les gens sur son dos et qu'il faut laisser faire le temps, quoi. Cette phrase à la fois triste parce qu'il ne la reconnaît pas, le fait qu'il lui demande si elle marche. C'est triste parce qu'il ne la reconnaît pas, mais d'un autre côté, c'est plein d'espoir parce que tout peut recommencer. D'une certaine manière, c'est une page blanche, mais avec la même il est le même qu'avant. Il est le même qu'avant et il n'y a pas de raison qu'il ne retombe pas amoureux. Voilà. Donc ça, c'est une fin assez émouvante. Voilà, et ça se termine comme ça. Donc voilà, bon, bilan. Bah, c'est un livre avec des qualités littéraires, c'est certain. Des trouvailles assez de langue, des choses amusantes, des petits bouts de destin grâce au côté épistolaire du roman. Mais une enquête qui demande une énergie folle pour suivre. Pour être correctement suivi, en fait, faudrait faire le même travail qu'a fait Mathilde dans le livre, c'est-à-dire prendre des notes, qui a dit quoi, quand, que, bon, enfin, c'est seulement un peu de boulot. Bon, alors, pour ceux qui aiment, hein, mais moi, c'est pas mon cas, les polars. Puis même, d'après ce que j'ai cru comprendre, même les gens qui aiment les polars, c'est un peu illusoire de croire qu'on peut tout suivre. Hein. Bon, on peut faire sans doute beaucoup mieux que ce que j'ai fait, mais. Voilà. Donc Sébastien Japrizot, enfin, c'est quand même un beau livre. Voilà. C'est de la fin pour ce livre.